et en Suisse, ouais. Mais le terrain était en Ouganda.
Et donc t'es allé en Ouganda pour voir, étudier vraiment. Comment c'est quoi de la recherche en fait sur les chimpanzés? Alors comment est-ce qu'on... Je comprends bien qu'il y a tout un passé, hein, fossé et autres de recherche sur ça, mais c'est quoi, enfin, comment ça marche, quoi, une recherche sur des êtres vivants?
Bah, ça dépend beaucoup des recherches que tu fais, hein, bien sûr, et du type. Dans mon cas, donc, je vais parler juste de ma recherche. Donc, moi, je faisais vraiment de l'observation. Donc, il n'y avait aucun contact avec les chimpanzés. Et puis, en gros, tous les jours, donc, je vivais au milieu de la jungle. Donc, je suis restée 7 mois. Et on avait, en fait, en gros, tous les jours, on partait, on essayait de trouver les chimpanzés, donc on suivait une communauté.
Ok, donc c'est pas un terrain enclos, déjà, évidemment.
Non, c'est
pas genre...
sauvage, ouais, ouais.
Ok, complètement.
C'est pour ça qu'on va jusqu'en Ouganda, ouais, ouais.
Mais parce que je me serais dit, peut-être, c'est une réserve assez grande, ouais. Et puis tu les suis vraiment, genre... Tu sais,
ouais,
pas,
ouais,
du tout où ils sont, quoi.
Là, c'est vraiment des, okay. Des sauvages, parce que ça change pour la recherche.
Ouais,
parce que tu dis,
ouais.
Dans un zoo, par exemple, c'est...
Ouais, c'est pas du tout les mêmes facteurs autour.
Ouais, tu t'en rends compte, enfin, justement, moi qui ai passé beaucoup de temps avec eux, avec des chimpanzés sauvages, après, si j'en vois dans des zoos, je me dis, mais ça n'a rien à voir, leur comportement.
Ouais.
Bah, en fait, c'est une espèce qui bougent tout le temps, tous les jours, ils dorment à un endroit différent, et ils ont des territoires qui font des centaines de kilomètres.
Donc ils marchent tout le temps, en fait.
Et ouais, c'est très sportif de sortir de ce
j'imagine.
Et donc, en fait, ils bougent tout le temps, et il se passe tellement de choses, c'est tellement riche dans leurs interactions et tout ça, que, bah, en fait, ça n'a rien à voir avec des zoos, quoi.
Ouais, ok, c'est-à-dire que ça, entre guillemets, détraque complètement leur manière d'être, d'être dans un enclos que tu peux plus faire de comparaison. Mais alors, ça veut dire que les observations qui se basaient sur des personnes, sur des chimpanzés, tu vois, l'absus révélateur, qui sont dans des zoos, elles valent pas grand-chose. Enfin, c'est-à-dire...
Ça dépend ce que tu mesures, en fait. Mais oui, ça vaut quelque chose. En fait, il y a quand même des avantages aux zoos. C'est que c'est beaucoup plus facile, en fait. T'as les espèces.
T'as une plus grande quantité, j'imagine, de recherche que.
Ouais, c'est ça. Il y a certains trucs dans. Je veux dire, ça prend beaucoup moins de temps, déjà, d'étudier des chimpanzés sur le. Parce qu'ils sont juste devant toi.
Ouais,
moi, j'ai perdu tellement de temps à
juste les chercher, quoi.
Donc, c'est beaucoup plus facile d'un point de vue technique. Et puis après, il y a certains trucs qui sont beaucoup plus faciles à faire. Donc, ça dépend de ta recherche. Mais il y a aussi des trucs où tu as besoin de contact, il y a plein d'études, par exemple, avec des écrans ou des trucs comme ça, où ils apprennent à appuyer sur
des trucs. Oui, c'est ça, ces trucs que j'ai vus là, où ils arrivent à se rappeler le truc de malade.
Ça, tu peux faire des trucs incroyables.
Ça, tu vas pas ramener ton écran dans la jungle.
Voilà, c'est ça.
Ouais, j'imagine. Ouais.
Non, bah, là, c'était moi ce que j'ai fait, et si tu fais avec des chimpanzés sauvages, c'est que tu fais vraiment que de l'observation.
Donc
toi, tu regardes.
Mais ils savent que
tu
es là?
Oui.
Okay. Forcément, j'imagine que tu peux pas tellement être.
Ouais, c'est ça.
Ils ont et ils bougent, ils fuient pas.
Alors, en fait, la communauté que je suivais, c'est une communauté qui a l'habitude d'être suivie depuis les années 80. Ils sont suivis 80-90. Et puis, donc, ils sont habitués. Mais ils savent qu'en fait, nous, on est là, mais on sert à rien. Ni positivement, ni.
Vous n'êtes pas une menace.
Ouais, déjà, on va pas leur faire de mal, mais on n'a pas non plus de nourriture.
Ouais.
Donc vraiment, on est là,
neutre.
Eux, ils sont là, ils sont là, mais.
Ouais, comme un arbre.
D'autres trucs à faire. Donc voilà, donc ils savent qu'on est là, ils nous voient, mais ils s'en fichent un peu.
Quand tu dis une communauté qui est suivie depuis les années 90, ça veut dire qu'on a un moyen de les retracer.
Ouais,
Parce que toi, tu rentrais, j'imagine, toujours au même endroit, un peu le soir, et puis après, tu pouvais les retrouver quand même avec, j'imagine, tu as une puce ou un truc. Comment est-ce que vous faites
Non, en fait, on se basait sur deux choses, enfin trois. La première, c'est où ils étaient la veille quand on en est parti. Donc, en général, on va dans cette direction, et puis voilà, ils vont se coucher en général quand le soleil se couche, ce qui est assez tôt en Ouganda.
Ouais.
En général, c'est un moment où on part, et donc on voit un peu la région, donc on commence plus ou moins vers là.
C'est quoi la région un peu, genre, je dis d'un point de vue faune et flore, genre, on parle de jungle intense, ou est-ce que c'est des prairies, ou c'est...
Là, on voit un petit peu sur les photos que j'ai mises là, donc c'est très dense.
Donc, tu peux pas voir un chimpanzé à 100 mètres, quoi.
Non.
Tu dois vraiment traverser la jungle.
Ouais, c'est ça.
C'est incroyable.
Mais donc, tu regardes dans cette zone, puis après, en fait, les chimpanzés font des cris vraiment très forts.
Ouais.
Et qui leur servent à eux pour se retrouver.
Ouais.
Et aussi à nous pour les retrouver.
Ouais.
Donc, ça, c'est vraiment le truc. Et après, il y a aussi les empreintes où on voit.
Mais donc, c'est vraiment un taf de détective que tu dois faire tous les matins, en fait, pour aller faire ton. Ça vous est déjà arrivé de, je sais pas les trouver.
Ouais.
Ah ouais.
Clairement, il y a eu plein de jours.
Vous êtes là pour 3 heures, tant pis quoi.
Il y a quand même beaucoup plus. En fait, on passe 8 heures par jour à les suivre. Et puis, il y a quelques jours, je disais, en fait, j'ai un journal que j'écris tous les jours le soir. Ouais. Et puis, c'était il y a 3 ans que j'étais sur le terrain. Il y a 3 ans exactement, justement, j'écrivais, oh, aujourd'hui, on n'a pas trouvé les chimpanzés, j'ai passé toute la journée à attendre. Enfin, voilà. Et ça faisait partie du job.
Ça arrive.
T'attends.
Ouais.
Voilà.
C'est fou que ce soit aussi, qu'il y ait une aussi grande partie du métier qui soit laissée en fait un peu au hasard ou au talent des scientifiques. C'est tellement inverse de justement contrôler tous les paramètres dans une salle d'expérience.
C'est assez génial
d'avoir ça.
Mais plus que les talents des chercheurs, c'est surtout les assistants de terrain
qui font le taf.
Mais disons que eux, ils font beaucoup de ce travail-là parce qu'eux connaissent hyper bien la forêt. Donc,
c'est des locaux.
Pour contextualiser, c'est des personnes qui sont ougandaises, qui ont grandi dans la région, et eux connaissent la forêt super bien et connaissent les chimpanzés super bien. Donc, moi, je suis arrivée en Ouganda, j'avais jamais vu de chimpanzés sauvages. Et puis, j'ai commencé à faire la recherche. J'avais le côté le background scientifique, mais voilà, il fallait les reconnaître. Et heureusement que j'avais mon assistant de terrain qui pouvait me dire, ah, lui, c'était là.
Ouais, c'est clair, sinon tu peux rien faire, quoi.
C'est ça. Donc, je pense qu'on oublie souvent les assistants de terrain.
Tellement nécessaire, parce que sinon la recherche serait pas possible, en fait.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est fou.
Et souvent, dans les recherches, après, ils apparaissent juste dans les petits remerciements à la fin, mais au final, sans eux, il n'y a rien, quoi.
Bon, hommage leur est rendu aujourd'hui.
Exactement.
Vous avez retiré quoi lors de ces recherches? C'était quoi le focus? Et puis, c'était quoi les conclusions?
Alors,
après combien, t'as dit 7 mois?
Ouais. 7 mois de terrain, après, les analyses qui suivent.
Ouais, la partie un peu relou, hein.
Ouais, j'imagine. Mais alors dans la recherche que j'ai faite moi, j'ai utilisé une caméra thermique qui mesure en fait la température du visage des chimpanzés, et en fait on peut voir les émotions des chimpanzés indirectement, ce qu'on peut voir aussi chez les humains, parce que en gros, suivant les émotions que tu as le sang qui va irriguer différemment ton corps. Donc par exemple, si t'as peur, il y a le sang qui va aller plus vers ton cœur, tu vois, pour que tu puisses aller courir. Voilà. Et donc si ton sang va vers le cœur, t'as moins de sang qui va irriguer tes extrémités, qui sont moins importantes pour courir. Et donc, en fait, ça résulte que les extrémités de ton corps, donc le nez, les oreilles ou les queues, pour les espèces qui ont une queue, sont plus froides. Et donc, en fait, indirectement, tu peux regarder le pattern de température pour voir les états émotionnels des espèces.
Ok.
Et ça, c'est une méthode qui est très récente. On a vu justement chez les humains que ça montrait certains trucs et tout ça. Puis il y avait quelques études préliminaires chez les espèces, mais on ne comprenait pas justement vraiment ce que ça mesurait. Enfin, on n'avait pas testé vraiment. Et puis, dans ma recherche, justement, j'ai montré systématiquement ce que ça pouvait montrer. Et j'ai, en gros, pris toutes les températures du nez des chimpanzés dans plein de situations différentes. Dans des situations, il se passait plein dans leur vie, il se passe plein de choses tout le temps. Et puis, je me suis concentrée sur ce qui était social. Donc, quand il y avait des interactions, que ce soit positives ou négatives, liées à l'autre ou pas. Et puis, j'ai regardé un peu ce que ça faisait. Et en gros, la première conclusion, c'était que les températures, les événements coopératifs engendraient une hausse de température du nez.
Alors, ce qui signifie ?
Ce qui est, en fait, justement, à l'inverse, peut-être c'est plus facile de comprendre le fait que quand c'est compétitif, il y a une baisse de température du nez.
Ok.
Comme justement.
Ok. Je vois la dichotomie.
Voilà. Et donc, on pouvait vraiment séparer les deux. Et puis, on voyait clairement qu'il y avait une hausse de température du nez ou une baisse.
Donc, baisse de température du nez, donc plutôt un sentiment d'aversion ou de peur.
Ouais, c'est ça.
Et comment tu peux faire le lien entre. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que tu interprètes, en fait ? Parce que.
C'est ça. On soit. Ce que l'étude a montré, c'est juste événement coopératif, hausse, et puis compétitif, baisse de température.
Et ça sur la base de, je ne sais pas, 1000 opérations, 300...
De
7 mois de terrain. Et il y a vraiment tout un travail statistique, j'imagine, qui est fait après. Ok.
C'est ça.
Et sur cette base-là, après, il y a une autre plus grande étude qui retrouve ces données, qui en fait une interprétation ?
Alors non, justement, ce qui va après, c'est l'interprétation de... Ils ont sûrement peur, ça c'est...
Ouais, c'est ça, voilà.
Ça c'est le truc qui parlerait à un... qu'il y a après coup.
Ouais.
Que, en fait, personne ne peut tester ça. Enfin, je veux dire, c'est une interprétation logique de... quand ils se font courser par un autre individu, ils ont sûrement peur, parce que la peur est une réaction normale, là-dedans, c'est adapté et tout ça. Donc, ça serait logique, quoi. En gros, parce qu'on sait que aussi c'est corrélé avec... Ça, c'est pas ce que j'ai montré moi, mais on sait que c'est corrélé, par exemple, à la piloérection, au cœur qui bat plus vite, etc. Et tout des, en fait, des symptômes de qui sont liés à l'émotion. Mais c'est comme, comme toi. Si tu vois, je te vois tout à coup transpirer et puis être tremblant et tout ça, je peux me dire, ah, mais t'es stressée, mais je peux jamais prouver.
Ouais, c'est ça qui est difficile, c'est de faire en fait une transition entre ce qu'on ressent, nous, puis surtout le côté verbal, genre peur, le mot peur, de dire que c'est la même chose chez les chimpanzés, je sais pas, peut-être que pour eux, c'est peut-être, genre, vraiment là, je nage complètement dans un truc, tu m'introduis complètement, hein, mais genre challenge, tu vois. Peut-être que nous on appelle peur parce qu'on a une aversion pour la difficulté, on va dire, mettons un truc social actuel, on a une aversion pour la difficulté, eux ils l'interpréteraient comme, je sais pas, un degré de préparation ou quelque chose comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des scientifiques aujourd'hui qui osent faire ce pas de l'interprétation? Ou est-ce que tout le monde est réservé et dit, tout ce qu'on peut faire, c'est voir une corrélation entre la température et finalement une variance cardiaque. Et on va pas plus loin, on va pas dire genre faire finalement une sorte d'anthropomorphisme, hein, de dire c'est comme nous quand on.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des gens qui font le pas, ou est-ce que le consensus scientifique est d'accord de dire on s'arrête là parce que sinon.
Alors ça, c'est un grand débat encore, et puis ça dépend justement un peu des scientifiques, des chercheurs et tout ça, mais c'est de plus en plus admis qu'on puisse parler d'émotions pour les animaux.
Okay.
C'était vraiment banni pendant très longtemps.
Ouais, ouais.
Il y a eu plusieurs phases, mais dans l'histoire un peu de la recherche sur les émotions, au début c'était un peu ils sont comme nous. Quand on a commencé à découvrir par exemple les chimpanzés sauvages, on disait mais ils sont comme nous, c'était vraiment beaucoup d'anthropomorphisme. Et puis petit à petit, justement, il y a eu un peu la science objective qui est arrivée en disant non, ça c'est l'humain, et puis on peut plus rien parler.
Puis là, on revient un peu à quand même quelque chose d'un peu parlant.
Et là, voilà, on peut revenir à un truc où on se dit, au final, qu'est-ce que c'est une émotion? Et puis, c'est quelque chose qui est adapté, c'est une réaction à une situation. Et puis, les chimpanzés ont ça aussi. Après, ça veut pas dire qu'ils ont exactement la même chose que nous.
De toute façon, chacun d'entre nous aurait un autre, comme tu l'as dit juste avant, une autre manière de caractériser cette émotion.
C'est ça.
On ne va pas s'empêcher, en gros, d'utiliser ces mots-là parce qu'ils sont attribués aux humains en
priorité. Mais on va le faire avec précaution. Par exemple, dans ma recherche, je ne parle pas d'émotion dans toute la recherche, à part à la fin, dans la discussion, où je dis on peut interpréter ça peut-être comme de la peur, mais vraiment, je l'ai fait comme... avec des pincettes, quoi. C'est sûrement le cas, mais c'est pas ça que je montre, donc j'en parle que à la fin.
Précaution scientifique normale, quoi.
Ouais. C'est ça, donc c'est vraiment...
T'as aimé faire la recherche?
Ouais, beaucoup. C'est hyper intéressant, et puis j'ai eu la chance d'être sur le terrain
pendant
7 mois, donc j'ai eu une super opportunité. Donc c'était vraiment cool. Mais après, justement, le truc... je suis très curieuse scientifiquement, et le fait de faire un seul truc, pour moi, ça me restreignait quand même, et c'est pour ça que je me suis dirigée vers le journalisme scientifique, parce que je me voyais pas faire que de la recherche sur les chimpanzés toute ma vie.
Même cette forme de recherche-là, qui est quand même particulière, tu vois, tu fais pas du microbiote dans un laboratoire, quoi, t'es sur le terrain,
oui,
et ça. Malgré ça, ça te disait plus de...
Ouais, j'avais envie d'écrire sur plein de choses, et puis de rencontrer plein de gens.
Pourquoi tu dirais?
Pourquoi j'ai pris ça?
Pourquoi le pluralisme? Pourquoi pas te spécialiser et devenir la meilleure primatologue de Suisse?
Ouais, je pense plusieurs raisons, mais la première, c'est que, j'adore justement parler de ce truc-là. Là, cette semaine, je suis en train de travailler sur 3 sujets en même temps. Je trouve ça génial, puis j'apprends en fait tellement, puis je préfère apprendre sur plein de sujets que de savoir exactement un truc hyper précis. Ça, c'est clairement personnel, c'est mes choix personnels.
T'es d'accord qu'en apprenant sur plein de sujets, t'apprends forcément moins dans un seul,
oui,
tu te spécialises
bien sûr.
Pas. T'es généraliste, t'as l'impression que c'est un truc inné, en fait, que t'as ou que t'as pas. Que toi, t'es plus une personne généraliste, qu'il y a des personnes qui ont plus un côté spécialiste. Je te rejoins complètement. Moi, j'ai besoin de faire plein de trucs, sinon je m'ennuie, en fait. Même dans les choses les plus passionnantes, donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire.
Moi, je pense que c'est aussi... J'ai grandi dans un environnement, je pense, où on a stimulé un peu ma curiosité intellectuelle aussi. Bah,
d'où le fait que tu aimes bien le collège, qui était pluraliste, etc.
C'est ça.
Mais alors, comment on fait pour les gens qui ne sont pas pluralistes, tu vois? J'entendais encore une émission sur l'école à la maison qui disait que vraiment, il y a des gens pour qui ça n'a pas de sens d'être assis dans une salle et d'écouter... 2 heures de maths, 2 heures de français, 2 heures de travaux manuels et puis 2 heures de sport, ça n'a pas de sens. Et j'avoue que Comment est-ce qu'on pourrait en fait séparer les gens qui seraient plus spécialistes et les gens qui seraient... Ou est-ce que c'est quelque chose que tu deviens enfin, c'est...
Ouais, eux, ce sera justement des bons chercheurs-chercheuses.
Ouais, ouais, il faut pour ça une base de pluralisme, peut-être. Ouais, bah, c'est mieux de commencer comme ça que de se tromper avec une spécialisation.
Ouais, tu vas pas te spécialiser quand t'as 8 ans déjà.
Mais je pense qu'il y a des gens qui pourraient. Regarde notre pote, oh, je suis sûr que tu te rappelles de lui, Christopher Chili. Ce type, mais à part ça, incroyable. Et t'es encore en contact avec lui?
Ouais.
Ah, putain, bah, tu le salueras bien de ma part, trop bien. Le type, première du collège, il savait ce qu'il voulait faire.
Ouais, ouais.
C'était sûr, il faisait ses entraînements là sur... Alors ça, énorme respect pour ce gars. Il faisait ses entraînements, je sais pas, toute la journée, il faisait des vrais vols sur son simulateur Paris-New York, et il réglait l'air conditionné, enfin des machins comme ça. Et aujourd'hui, il est pilote chez Swiss, quoi. Il a fait, et heureusement, juste avant le Covid, hein, je sais pas s'il l'aurait pris si c'était une année plus tard, mais... Il y a des types comme ça, avec vraiment une vocation. Et...
Ouais. C'est génial, il faut tout. Hein.
Oui, clairement, clairement. Mais je sais pas si on est dans une période où on a plus besoin de l'un ou de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai l'impression d'entrer dans un monde du travail où tout le monde est très spécialisé.
Ouais.
Et où les généralistes, finalement, on est un peu là. Ouais, mais tu sais plein de trucs, mais en fait, tu sais rien. Puis tu sais pas un métier, t'es juste... Alors le journalisme, c'est une option, parce que c'est ton métier que d'être curieux, finalement, de plein de choses. Donc vraiment, bien joué.
Mais t'as raison, je pense qu'il y a... C'est un peu moins valorisé, justement, de vouloir faire plein de choses. Et c'est plus valorisé d'être spécialisé dans un truc et puis d'être pilote, chercheur.
Ouais, ouais, c'est ça, ouais.
Ouais.
Parce qu'il y a un avantage comparatif, on va dire. Tu fais le truc que tu fais le mieux, le plus, et pas tu te disperses pas dans des autres trucs. Je peux comprendre, mais j'avoue que j'arrive pas à me forcer, quoi.
Ouais.
J'arrive pas à être ce gars qui fait que du droit, droit du bail, pendant 25 ans, je sais pas. Moi, je voulais te parler aussi d'un truc, c'était le podcast que t'as fait. Non, déjà, je voulais te demander un truc. Avant de parler de ça, je voulais te demander si ça avait changé ta perception des animaux d'une manière générale. Le fait d'avoir fréquenté des chimpanzés qui sont des animaux et en même temps tellement proches de nous, quoi. Si je me trompe pas, c'est l'espèce la plus proche, hein, génétiquement parlant, des humains.
Avec les bonobos,
ouais. Avec les bonobos. Mm-hmm. Est-ce que ça a changé ta manière de voir? Je sais pas, est-ce que t'es devenue végétarienne ou végane? Est-ce que ça... Ouais?
Ouais. Alors oui, je suis devenue végétarienne, mais j'étais déjà, disons que j'étais en transition avant.
Ouais.
J'étais déjà flexitarienne avant. Et puis en fait, en Ouganda, ça surtout... En fait, le régime était végétarien là-bas, parce qu'au camp, on n'avait pas trop le choix. Et puis en fait, j'ai remarqué que ça allait très bien, que j'avais pas besoin de viande. Donc c'était plus, disons, ça que le contact avec les animaux, même si je pense que ça a joué un rôle. Mais je pense que ce qui a le plus changé ma perception, c'est cette conscience vraiment qu'on est tous des animaux qui viennent tous dans cette commune. Tu vois, genre vraiment quand t'es avec des animaux qui sont aussi proches de toi, c'est sûr que t'arrives pas à ne pas voir cette proximité. Mmh, mmh, mmh. Et puis ça m'a rendu vraiment très consciente de cette évolution. Et puis un peu de penser un peu les choses au sein de cette évolution, de comment est-ce pourquoi on est adapté à quelque chose, tu vois, genre notre mécanisme. Après, tout ça, c'est toutes mes études aussi, hein, que j'ai faites, mais j'ai toujours eu cette tendance un peu à analyser de tous nos comportements, nos mécanismes et tout ça, un peu d'un point de vue évolutif, et puis essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé à ce qu'on est aujourd'hui en tant qu'humain, et parallèlement à toutes les autres espèces. Et je trouve ça trop intéressant, justement, de comparer.
Ouais, c'est genre l'histoire de l'humanité, le truc le plus fascinant, probablement, qu'on ait étudié. Mais concrètement, c'est-à-dire que t'as pu communiquer avec... communiquer. Je sais pas quel verbe utiliser. Est-ce que t'as pu, je sais pas, avoir un contact visuel? J'imagine que t'es assez proche de quand tu t'es dans la jungle et que tu les rencontres, les chimpanzés.
À 7 mètres de distance.
Donc t'as pas un moment où un contact proche, genre comme nous maintenant, à, je sais pas, 50 centimètres, où tu peux... discerner vraiment précisément les émotions du visage. Si, quand même, à 7
Alors,
mètres. Tu...
Ouais, donc 7 mètres, disons que 7 mètres, c'est la distance réglementaire pour les humains. Les chimpanzés, mais les chimpanzés n'ont pas de distance réglementaire.
Ils n'ont pas un règlement.
Bah ouais, enfin, ou alors ils ne le suivent pas trop.
C'est un peu des anarchistes, les chimpanzés.
Donc c'est arrivé qu'ils viennent, qu'ils se posent un peu à côté de moi. Comme ça, après moi, je prenais un peu de la distance comme je pouvais, mais voilà, donc ça m'arrivait d'être quand même à 2 mètres d'un chimpanzé. Et puis vraiment, de voir les détails, et puis surtout, le regard.
L'expression, il y a une communication dans le regard, j'imagine qu'ils regardent tes yeux, et puis...
Ouais,
tu vois les micro-mouvements du visage.
Les yeux sont très, très semblables aux nôtres, ce qui est assez rare dans le règne animal, parce que justement, c'est ce blanc comme ça qui permet de suivre le regard et tout ça. Tu vois ça.
Et t'as pu faire, évidemment que tu ne l'as pas retranscrit dans tes travaux scientifiques, mais une sorte d'anthropomorphisme, justement de dire, là, il doit ressentir, je ne sais pas, une sorte de communication comme ça, inter-espèce, il doit être, je sais pas, fatigué, là, il a faim, enfin, tu vois, un des trucs, t'as pu faire ça?
Ben.
Tout entretenant, évidemment.
Mais tu peux pas leur poser la question, quoi. Et c'est ça qui est justement tellement intéressant, c'est que t'es face à eux, puis tu te dis, ah, mais à quoi est-ce qu'ils pensent maintenant? Tu vois le regard comme ça, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils se disent maintenant en me regardant? Est-ce qu'ils se posent les mêmes questions que moi ou pas? Et c'est fascinant parce que c'est des questions tellement intéressantes et en même temps, on ne peut pas avoir la réponse. Ouais. Mais justement, dans ma recherche, j'essayais de m'approcher justement de ce truc où on essaie de comprendre ce qu'il y a derrière. Et puis, justement, ce que j'ai pu voir un peu, c'est parce qu'au début, en gros, j'avais fait un peu ma recherche mal au début, qui était un exercice très intéressant scientifiquement. C'était que j'avais, en gros, j'avais classé les différents événements comme je pensais. Et donc, c'est-à-dire que j'avais mis d'un côté les événements que je pensais être positifs et de l'autre, les événements que je pensais être négatifs. Et après, voir ce que ça faisait. Et puis, donc, je regardais un peu... j'avais mis, par exemple, en positif quand il se toilette ou bien quand il mange. Enfin, voilà, des trucs que j'estimais positivement.
Mais positif, c'est-à-dire normativement positif, genre moralement positif?
Non, pas moralement. Non, qui procure une émotion positive.
Ok.
Et puis, mais en fait, c'était ma projection de ce que moi, ce qui me fait plaisir. Enfin,
qui est partagé.
Généralement
bon, manger, soir. J'imagine quand même il y a une question de circuit dopaminergique quand même, genre si tu...
Oui, voilà.
Voilà.
C'est dans le sens qu'il y a en fait les émotions positives à la base, elles sont là pour aller vers des ressources.
Ouais, voilà. Ouais.
Donc ça c'est logique.
Ta projection n'était pas complètement fausse. Mais tu dis dans la démarche c'était faux, pourquoi?
Ouais, parce que justement j'avais moi mis ça dans des catégories. Et puis donc j'avais fait ça comme ça et effectivement j'avais vu qu'en règle générale il y avait une hausse de température du nez dans les événements positifs et dans les négatifs une baisse de température, mais j'avais pas fait dans le bon sens parce que c'est moi qui avais classé ça. Et après en fait j'ai refait une analyse statistique avec ce qu'on appelle des clusters, c'est un truc qui te classe en fait statistiquement.
Non, j'aurais pas dit ça spontanément comme ça, ça m'évoque autre chose, mauvais souvenir.
Mais bref, c'est un truc statistique qui permet de classer en fait statistiquement les choses. Et puis donc j'ai fait ça et j'ai pu remarquer qu'en fait disons que le classement que j'avais fait était plus ou moins juste mais pas totalement. Et il y avait par exemple le cas de la copulation. Moi, je l'avais mis dans un truc positif et en fait, c'était négatif. Ouais.
Ok.
Et puis, justement, en parlant avec d'autres personnes, ils me disaient... en fait, le truc, c'est que pour les chimpanzés, la copulation, c'est un truc hyper stressant parce qu'il y a des risques d'agression après.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc, en fait, c'est hyper rapide.
Contrairement aux bonobos, je présume.
Ça dépend.
Les bonobos, ça peut être aussi... C'est le mythe, un peu.
Ouais, ouais.
C'est... Okay.
Bah, ils le font beaucoup plus facilement. On présume que
c'est agréable, mais en fait, non. Pas forcément.
Pas forcément. Ouais. Après, j'ai pas testé chez les bonobos, okay. donc voilà. Mais voilà, c'est un bon exemple, justement, du fait que moi, j'avais projeté des idées humaines sur une autre espèce.
La correction est un bon exercice, ouais, j'imagine, d'avoir vu que c'était une erreur et tout. Ah, intéressant. T'as déjà eu peur? Parce que c'est quand même... Ok, ils sont... à peu près de notre taille, j'imagine.
Ouais, un peu plus petit.
Mais ils sont genre 5 fois plus forts. Ouais, je pense qu'ils te déchirent en deux tranquille, quoi. Donc, t'as pas eu un petit peu... Quand il y en a un qui respecte pas son règlement et qui s'approche un peu trop de toi, t'as pas eu un moment, je sais pas, une forme de crainte, quand même?
Si, si. Ouais, j'ai eu des moments... j'ai bien peur. Il y a eu un moment... Enfin, il y a eu plusieurs, mais un moment vraiment clé où je m'étais posée... En fait, je suivais un des chimpanzés qui s'était posé et qui commençait à manger. Et puis, voilà, il restait là pendant longtemps. Alors, j'ai décidé de m'asseoir et j'avais mon livre. Alors, je me suis posée et j'ai lu mon livre. Mon assistant de terrain, en fait, c'était en haut d'une colline et mon assistant de terrain n'a pas voulu venir avec moi parce qu'il n'avait pas envie de monter la colline. Okay. Donc, j'étais toute seule. Donc ça commence bien. Et puis, sauf que donc le chimpanzé était vraiment en haut de la colline. Et moi, j'étais dans une petite colline comme ça, enfin, disons dans le bas de la colline. Et il y avait une deuxième colline plus haut. Et donc, c'était le bêta de la hiérarchie, donc le deuxième dans la hiérarchie. Et puis, en fait, j'entends tout d'un coup des pas depuis derrière moi. Et en fait, c'était le mâle alpha qui venait vers le bêta pour l'attaquer. Et en fait, ils font ça des fois, ils prennent des bâtons, des fois, enfin, ils courent très vite pour faire peur à l'autre, pour
se rassurer,
leur domination et tout ça. Et ça peut être assez violent, quoi. Et je le vois commencer à faire ça en direction du bêta. Et en fait, moi, j'étais entre eux deux. Mais vu que j'étais plus basse, il ne m'avait pas vue. Et je voyais qu'il regardait directement le bêta sans
donc, il allait genre te marcher dessus.
Voilà. Donc, il allait vraiment marcher dessus. Et puis, je voyais qu'il ne me voyait pas. Puis, j'étais assise. Donc, j'étais vraiment basse. Ouais. Et je le vois comme ça. Et je le vois courir vers moi. Et je
Stress.
Et je pouvais rien faire, j'étais assise par terre. De toute façon, on ne doit rien faire. Enfin, je peux pas courir.
Ah ouais, pourquoi ?
Faut pas leur faire peur, parce que c'est le pire truc.
En fuyant, tu leur ferais peur.
Ouais, c'est ça. Si je fais des mouvements brusques, okay. En fait, voilà. Puis, de toute façon, ils courent plus vite que moi. Donc
t'es juste. Ouais.
Donc, de toute façon, je peux rien faire. Donc, moi,
t'es
j'ai
juste tétanisé, quoi.
Un vieux réflexe nul de prendre mon livre et de le mettre sur ma tête.
Oh, bah alors ça. Moi, j'aurais pas. Je pense j'aurais fui.
Mais, et puis, je le regarde, puis je le vois courir. Et puis en fait, il m'a vu, mais à un mètre de moi, vraiment en courant comme ça.
Ouais, ouais.
Et il me voit, et en fait, donc au dernier moment, bien sûr, il a l'élan,
ouais.
Et donc il peut pas s'arrêter. Et donc en fait, il fait un espèce de vieux dérapage nul où il dérape comme ça, il m'évite juste. Donc heureusement, j'ai rien dit, mais il m'évite, mais il fait une espèce de roulade.
Ouais. Et, genre coup, freinage d'urgence en merde. Et du coup, c'est devenu le nouveau bêta. Non, à cause de ça. T'as renversé la hiérarchie.
Le bêta, il l'a vu, bien sûr, et puis il n'a pas du tout été.
merde.
J'ai fait foirer son coup, mais j'ai eu bien peur.
Tu m'étonnes.
Je m'étais vraiment retrouvée. J'ai encore cette image du visage de l'alpha à un mètre de moi qui me voit et qui a vraiment la peur dans ses yeux de. Il y a quelqu'un juste devant moi.
Ouais, ouais. Donc il a reconnu en toi quand même quelque chose à éviter, quoi.
Ouais, en tout cas, il reconnaît que
c'est pas genre, le petit humain qui sert à rien, je roule dessus, on s'en fout. Il y a quand même,
En tout cas, il a eu peur.
Voilà.
Enfin, je peux pas dire à ce qu'il s'est dit.
Non, ok, on va justement pas faire ça.
C'est une bonne question, j'aimerais bien savoir.
Je me rappelle, quand j'étais en voyage en Chine avec Mathilde il y a quelques années, on est allé dans un parc, il y a plein de singes dans les parcs du centre de la Chine.
Ouais.
Je crois que c'était des.
Macaques.
Des macaques, ouais, exactement. Et donc, ils me sont comme ça, ils vont évidemment dans les poubelles chercher les restes de bouffe, etc. Ils sont, je sais pas si on peut dire, habitués aux humains, je crois pas, parce qu'ils vont pas proches, mais il y a un moment où il y avait on marchait sur le chemin et il y a une barrière à côté de nous et il y a un macaque qui descend de ça, vraiment à 2 secondes, qui se pose et on est à la même distance que toi et moi, donc 50 cm. Et moi, ça me surprend et tu vois, ils ont des grandes dents quand même à serrer. Enfin, je sais qu'ils sont plus forts que moi, même si je fais 2 fois leur taille, pour le coup, les macaques, ils sont assez petits. Et spontanément, je tends la main, tu sais, pour dire approche pas, tu sais. Et Mathilde, avec son flegme habituel, me dit « Alors, si jamais, c'est pas du tout une bonne idée de faire ça, parce qu'il se sent menacé. » Tu sais, genre, au lieu de me pousser, ou je sais pas, de me dire « Baisse le bras » ou quoi que ce soit, il commence à m'expliquer que « Ah, tu comprends, il se sent menacé, tu tends le bras vers lui. » Et en effet, il a montré les dents. Tu sais, là, je suis genre « Mon Dieu, il a la rage, c'est, je vais mourir. » Tout de suite, tu vois, genre « Non, mais bon, c'est terminé. » Je voulais juste, je sais pas, prendre des photos et tout. Et non, c'est bon, il y a un magasin, il va me sauter à la gorge, il va m'arracher. Enfin, c'est bon. Et non, et heureusement, il s'est reconcentré sur son truc qu'il était en train de bouffer. Mais je me suis juste rendu compte que mais je pouvais pas compter sur mon autre macaque, tu vois, pour me protéger. Non, mais vraiment. Et c'est là que je me suis dit, bah oui, évidemment que pour moi, c'était une interprétation que de tendre la main avec paume vers lui, ça veut dire n'approche pas pour moi. Mais en même temps, c'est un réflexe. J'ai pas commencé à réfléchir, alors ce qu'il faut, c'est pas bouger. Attends, j'en sais rien. Enfin, on est vraiment. Je sais pas comment il y a pas plus de morts dans ces parcs avec des animaux, franchement. Moi, je pense qu'il y en a peut-être, mais en Chine, on sait pas, tu vois.
Ouais.
Sûrement de ces trucs. C'est quoi ce que t'as déduit de. Parce que tu parlais d'hiérarchie avant. C'est quoi ce que tu as déduit de ça? C'est intéressant, il y a une hiérarchie avec le mâle alpha, le mâle bêta, j'imagine qu'il y a toujours un oméga. C'est ça. Et est-ce que ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut ou qu'on cherche à transposer chez les humains?
Non, nous, y a bien sûr une espèce de hiérarchie chez les humains qu'on retrouve dans. J'ai envie de dire tous les systèmes sociaux, parce que je crois qu'il va avancer trop, mais en tout cas dans beaucoup de systèmes sociaux, de hiérarchie. Donc on a, on a des personnes qui dirigent et tout ça, parce que ça aide à organiser un groupe social, tout simplement. Si plus tu es, plus il faut une organisation, et donc c'est un type d'organisation. Donc ça, c'est sûr que tu retrouves chez les espèces sociales. Mais après, le fait que ça soit linéaire comme ça, comme chez les chimpanzés.
Linéaire, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que tu as vraiment alpha, bêta, enfin tu peux vraiment reconstruire qui est au-dessus.
Une sorte d'organigramme triangulaire, quoi. Mmh.
Mais plus que c'est vraiment une ligne, et puis t'as ceux qui sont tout en bas, enfin tu peux.
Donc il n'y a pas un groupe à un moment de type un peu au milieu donc,
vraiment, ouais, t'en as qui sont un peu au milieu, mais il y aura quand même un truc où on saura qui est au-dessus de qui. Et eux savent très bien qu'ils sont au-dessus de lui, mais au-dessous de lui.
Là, on parle de groupe de combien de chimpanzés là?
Alors, ça dépend des communautés, mais. C'est à peu près 40, quelque chose comme ça.
Donc ils savent où ils sont dans la hiérarchie des 40, ouais. mais vraiment finement. Genre s'ils voient tel gars, ils le reconnaissent, ils savent, ok, moi je suis pas 8 échelles en dessous, donc je vais, je sais pas s'ils se mettent à l'envers pour faire genre je suis soumis ou ce qu'ils font, mais ils savent comment ça se joue. Et les luttes de pouvoir, j'imagine qu'il y en a, elles sont. J'avais entendu, j'ai un petit peu écouté quand même, je sais plus, Richard Wrangley, ou je sais plus comment il s'appelle, qui était un chercheur dedans, qui disait qu'il y avait pas mal de. En fait, on a une tendance à percevoir, corrige-moi vraiment, le monde animal, en tout cas le monde des grands singes, comme vraiment ces hiérarchies indépassables et comme de la pure domination du mâle dominant sur les dominés, alors qu'en fait, il y a vraiment beaucoup plus de coopération qu'il y paraît. Et ça, c'est quelque chose qui est assez méconnu, qu'en fait, le mâle dominant, s'il veut vraiment rester dominant longtemps, à moyen ou à long terme, il a besoin de compter sur la collaboration du bétail et de tous les types, tu sais pas, les 5 premiers, j'imagine, en dessous, même tous, parce que sinon, en fait, il suffit qu'il y en ait 2... Et il le défonce, quoi. Donc, il y a intérêt à faire ça. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression, et c'est pour transposer un petit peu vers le monde des humains, et vraiment, encore une fois, je parle sous ton contrôle. Hein. On est, j'imagine, quand même des grands singes. Il y a sûrement des trucs qui se rapprochent un peu de ça dans l'hiérarchie, comme tu l'as décrit avant. On a tendance à penser aujourd'hui que les hiérarchies sont basées purement sur une forme de domination. Et je veux faire le lien après avec le podcast. Une forme de domination, comme, c'est-à-dire, on parle aujourd'hui d'oppression, hein, les oppresseurs, les oppressés, c'est-à-dire... de la pure domination physique ou intellectuelle ou sociale ou les quatre grands de Bourdieu, hein, peu importe, sur les dominés qui, eux, n'ont rien à faire que d'être dominés. Et j'ai l'impression que cette recherche sur les grands singes, hein, qui est assez vieille maintenant, ben vient plutôt contredire ça, dire non mais non, si le type est en haut, c'est pas seulement parce qu'il est purement dominateur et qu'il veut oppresser, mais aussi parce qu'il a réussi à, par un jeu d'alliance, par des ressources, par une générosité, par une forme de fiabilité, j'en sais rien, à amener une stabilité, en fait, dans le groupe. Sinon, il serait renversé. Je sais pas si c'est quelque chose qui te dit quelque chose ou qui te parle.
Ouais, clairement. Premièrement, t'as Franz De Waal, qui est un primatologue qui a écrit pas mal de trucs, justement, qui a écrit un livre qui s'appelle Chimpanzee Politics, qui explique très bien ça, justement, ce concept-là, qui a été montré plusieurs fois. Et puis, moi, je l'ai observé directement, quand j'étais sur le terrain, parce que on avait, en fait, quand j'y étais, il y avait un des chimpanzés qui était Franck, qui était assez jeune, enfin, il était ado, et puis, en fait, il était très fort physiquement. Il a eu son corps d'adulte et est devenu très très fort. Et en fait, il a remarqué que grâce à ce corps, il pouvait dominer facilement les autres. Et donc, en fait, il a commencé à attaquer tout le monde. Pour monter dans les échelons. Et donc, il attaquait vraiment, et c'était vraiment le...
Tout le temps,
personne
quoi.
Pénible.
Le pénible
qui venait attaquer toutes les femelles. Et petit à petit, il est monté dans les échelons parce que justement, en fait, il attaquait tout le monde et tout le monde commençait à avoir peur de lui.
Ça, t'as pu voir cette évolution sur les quelques mois où t'étais ?
Alors, pas. Non, ça a commencé avant.
Ouais. Mais t'as pu voir des combats, je sais pas.
Oui.
Faut combien de combats pour que c'est établi ?
Pas de chiffres, en fait. C'est que tu peux voir les. En fait, ils ont des cris de domination ou de soumission.
Ok.
Et puis, donc, tu peux voir là-dessus, tu peux faire un calcul un peu sur qui est au-dessus de qui. Mais il n'y a pas de chiffres.
Ok, c'est pas genre.
À un moment, ils se mettent d'accord, en gros. Ouais,
bon, c'est bon, ciao. Ouais.
et donc, petit à petit, tous les membres de la communauté se soumettaient à lui parce qu'ils avaient peur, tout simplement, parce qu'il les attaquait dès qu'il y avait quelque chose. Et il est monté dans la hiérarchie, comme ça, jusqu'à arriver troisième dans la hiérarchie. Donc, c'est très haut, sachant qu'il était encore jeune. Ouais. Il est monté comme ça, hyper haut. Et puis là, lui, il se disait, allez, je vais devenir alpha, quoi. Donc, il attaque le bêta. Sauf que là, en fait, il y a tout le monde qui s'est... Il y a un certain moment où tout le monde s'alliait contre lui. Ah. Et en fait, il ne pouvait pas dépasser ce stade de troisième dans la hiérarchie.
Fascinant. Parce qu'il était juste...
Il n'avait pas d'amis.
Et qu'il était juste dans la domination.
Voilà, exactement.
Incroyable.
Et puis, il s'est arrêté là. Et encore aujourd'hui, si je ne me trompe pas, en tout cas, quand je suis partie, enfin, j'y étais encore.
Et voilà, et c'est le max, en fait.
Voilà, il ne peut pas monter parce qu'il ne faisait que de la domination, il n'avait pas d'amis. Et petit à petit, entre deux, il s'est un peu calmé, il a arrêté d'attaquer un peu les autres parce qu'il a compris
que
les autres, ils se faisaient attaquer. Exactement.
Incroyable, j'ai tellement envie de faire 57 000 parallèles avec la société d'aujourd'hui, où souvent c'est les cadres intermédiaires en fait qui sont les relous dictatoriaux. Ceux d'au-dessus, ils ont compris qu'il fallait les... Oh,
ouais.
Incroyable, fascinant à part ça.
Ouais, c'est incroyable.
Vraiment.
Ouais.
Quand tu dis récemment, tu prends des nouvelles encore de comment ils vont ou de comment avance la recherche? Tu t'es fait, j'imagine, alors, des amis là-bas ou...
Ouais, alors j'étais sur le terrain en janvier, là, de cette année, je suis retournée. Donc, j'ai pu voir. Et puis aussi, bah, j'ai encore contact avec des chercheurs ou chercheuses qui sont encore sur le terrain ou mon assistant de terrain. Mmh. C'est un peu plus difficile de parler avec lui, mais j'ai encore quelques contacts.
Tu continues à faire des voyages, non? Là, j'ai vu que tu as dit où? Au Congo?
Au Sénégal.
Au Sénégal.
Ouais, c'était pour les conférences du journalisme scientifique.
Ok. Donc, tu es envoyé par l'UNIL pour ça?
Non, là, c'était avec l'Association des journalistes scientifiques de Suisse.
C'est cool.
Ouais.
C'est un métier aussi qui offre, j'imagine, pas mal de possibilités de voyage. Ou bien tu suis des chercheurs, ou pas trop.
J'aimerais bien le faire de plus en plus, parce que c'est ça que j'adore.
Ouais, ouais.
Mais j'aimerais, idéalement, pouvoir suivre des expéditions scientifiques et puis un peu retracer... C'est ça, donc là je le fais un peu, mais j'aimerais bien faire encore plus.
Ouais, ouais, tu m'étonnes, c'est ça qui est passionnant. Mais comment tu. Enfin, je sais pas, il y a un. J'avais vraiment le même état d'esprit, bon, avant d'avoir un enfant, hein, ok. Mais aussi avant de rencontrer Mathilde et avant de. Bah, je sais pas, il y a la vie, quoi. Mm-hmm. Et puis tu t'accroches, et puis il y a tes proches. Comment tu réussis à concilier les deux? Le fait que, bah voilà, t'as cette. Ouais, j'imagine hein, que c'est pas la question facile. Hein. Mais comment tu fais? Parce que moi, je suis. Perso, je suis un peu perdu des fois. Je suis un peu là, genre, la Suisse, c'est quand même vraiment tout petit. Et j'aimerais bien un petit peu voir autre chose. Tu sais, la vie est très courte, on va vraiment mourir dans pas si longtemps. Et j'aimerais voir tellement de choses, j'ai rien vu du tout. Et de toute façon, j'aurais rien vu du tout, mais c'était fort d'aller, je sais pas, rencontrer d'autres choses, rencontrer d'autres personnes. Enfin, cette fraîcheur, en fait, que t'as à pas rester dans le petit carcan de notre petit pays, dans notre petit canton. Comment tu réussis à concilier ou comment tu planifies de concilier les deux? Je sais pas si tu veux une famille ou quoi, mais même...
Ouais.
Je dis pas tes parents, les proches, enfin.
Ouais, bon déjà pour l'instant j'ai pas d'enfants et puis donc ça aide déjà pour ça. Mais après ouais bah moi j'ai pris c'est un choix de vie qui fait que bah dans ces dernières années je suis souvent partie 6 mois par-ci par-là, donc voilà ça veut dire 6 mois sans voir tes amis et ta famille. Mais après je garde contact, on a de la chance d'avoir quand même des téléphones.
Mmh, mmh.
C'est un choix de vie. Après, je pense que plus tard, si j'ai une famille, si j'ai des enfants, ça va être compliqué. Mais j'espère quand même garder un peu ce truc. Je sais pas trop comment dire. Je pense que moi, j'ai cette envie de le faire. Mais après, bien sûr, il y a des difficultés. Et puis, je veux dire, rien que bah, moi, maintenant, je suis plus posée à Lausanne. Je bouge beaucoup moins facilement parce que, tout simplement, il faut que j'aille au travail.
Ouais, ouais.
Mais voilà, je fais aussi une partie en télétravail, ce qui me permet aussi de bouger, un peu de me faire des longs week-ends. Mais ouais, je sais pas, il faut trouver son chemin.
T'as eu des incompréhensions, je sais pas, dans tes proches, dans ta famille et tout, qui disent « mais elle est tout le temps loin ». Je sais pas, des gens qui veulent un peu te retenir ou qui disent « ah, je sais pas, elle se cherche » ou... J'en ai eu 2-3, hein, c'est pour ça que je te posais la question.
En fait, je crois que...
Ou tu fais ton truc et tu t'en fous, en fait.
Tout le temps, mais ils ont l'habitude, parce que je suis comme ça depuis le collège. J'avais fait mon premier voyage toute seule, j'avais 15 ou 16 ans. Et puis après, enfin voilà.
Okay.
Donc,
t'es allé où?
À Malte, j'avais fait un... Comment ça s'appelait? Extramuros.
Ah ouais, ok.
À ce moment-là, c'était la première fois que je partais toute seule, puis j'étais là, ah, mais c'est chouette.
Ouais, ouais, c'est trop, cette
puis,
liberté.
Plein de trucs, voilà, c'est ça. Et puis voilà, je crois que ma famille et mes amis et tout ça savent que
ils ont compris.
Un cas un peu spécial.
Ouais, assez ouf, hein. Franchement.
Ouais.
Mais de pouvoir réussir à concilier les deux serait ouais. Super, tu vois, un truc genre, je sais pas, un 10% de voyage. 10%.
Ouais, mais moi ouais. Je cherche ça.
C'est un mois par année, tu vois, un truc comme ça, ce serait. Pff.
Ouais.
Vraiment
ouais, ouais, j'aimerais bien à pouvoir plus voyager que ce que je fais maintenant. Là, j'ai l'impression que je suis hyper contente de mon travail et tout ça, mais j'ai envie de faire un truc où je peux un peu plus bouger quand même.
Ils sont réceptifs à des initiatives? Genre si tu dis, ah, il y a telle conférence sur, je sais pas moi, les microplanctons en Guadeloupe, Je me suis intéressé, j'ai fait tel ou tel truc, il serait réceptif à te faire voyager, ou même si tu dis, je sais pas, je prends sur mon salaire et puis je vous fais un truc, puis vous me payez ce que vous voulez.
Bah, en tout cas, ils étaient ouverts à l'idée que je parte au Sénégal là il y a 2 semaines. Mmh. Donc, oui, après pour une conférence en Guadeloupe, je pense que.
Non, ok. Peut-être
qu'il y a une transmission sur Zoom. Mais après, il faut juste argumenter si je peux leur dire, bah, là je peux faire un super article.
Le jour où on a des nouvelles de. La sonde qui vient de partir là, tu sais, merde, il faudrait qu'on ait un jour, quand j'aurai de l'argent, on aura quelqu'un là qui fait des recherches, tu sais. J'ai pas inventé le format, hein. Ceux qui font ça aux États-Unis, ils ont un tiers qui vérifie toutes les conneries, ce qui aiderait pas mal, surtout pour moi, et qui check le nom. Tu sais,
Non, mais je vois très bien.
La sonde qui vient de partir pour aller vraiment dans les endroits les plus en forme de avec des. qui va vraiment très très loin pour choper les seuls photons qui reviennent du fin fond de l'univers, quoi. Et le jour où, par exemple, elle arrive, j'imagine, je sais pas où sont les informations, je sais pas si c'est aux États-Unis, je présume, ça vaudrait la peine, j'imagine, de se déplacer. Ou si, je sais pas, les premières fusées qui vont partir vers Mars reviennent, je sais pas ce que tu penses de Musk ou de ce genre de dynamique. Aller sur place, ça vaut quand même la peine, surtout aujourd'hui où on va pas tellement sur place. J'imagine, il y a beaucoup qui se fait par Zoom ou par vidéoconférence. Ça serait cool. Ouais, donc ils sont réceptifs à ça.
C'est mon idéal de travail, c'est de pouvoir justement aller sur place et tout ça. Alors moi, maintenant, je travaille en majorité pour l'Université de Lausanne. Donc il faut qu'il y ait un lien avec l'Université de Lausanne. Hein,
Ok. Et il n'y a pas un type qui est justement.
Mais voilà, après, il y a plein. Oui, voilà, il y a plein de trucs un peu.
C'est
un
pas
peu
voyageur.
Partout. Donc voilà, si j'arrive à documenter et tout ça, ils sont assez ouverts. Après, le but, c'est pas de gaspiller beaucoup d'argent.
Non, ok, non.
Mais voilà, mais c'est pour ça que moi, j'aimerais bien, idéalement, après, peut-être retourner sur le. Être indépendante un petit moment, comme quand je voyageais. Et puis, faire par pis, justement, des trucs où je bouge. Et voilà.
Mais idéalement, tu te verrais poursuivre ce rythme de vie, je sais pas, 20 ans. Genre 20 ans de James Webb. James Webb, le télescope James Webb, c'était ça le truc. Tu te verrais poursuivre, je sais pas, 20 ans, comme ça quoi, c'est le truc qui te plaît en fait. Voilà, t'as trouvé le truc qui te plaît.
Là, c'est le truc qui me plaît maintenant. Ouais. Après, peut-être
que
dans 2 ans, je te dirai non.
Là, mais là, ça te plaît et tu le suis quoi. Ouais. Propre. Franchement, propre.
Ouais. Bah, j'essaye de le suivre, après, je ne peux pas le suivre autant que je voudrais, mais quand même.
Scientifique, c'est. Toutes les sciences, parce que le podcast que j'ai écouté sur la méritocratie, c'est plus des sciences sociales. Tu couvres tous les domaines scientifiques, parce que les juristes diront aussi qu'ils font de la science, tu vois, que c'est une recherche scientifique quand on fait une thèse de doctorat. C'est quel domaine que ça couvre?
Alors moi, je fais un peu de tout. Disons que juste par affiliation, je fais pas mal de biologie ou de psychologie et tout ça, parce que c'est la science cognitive, tout ça, ce que j'ai étudié. Mais après, j'aime beaucoup, j'aime bien couvrir des trucs de physique aussi, ou des sciences un peu plus dures. Mais en soi, je peux faire un peu de tout. En fait, c'est moi qui choisis mes sujets.
Ouais, en fait, c'est faculté des sciences. Donc on n'est pas.
Pour l'Université de Lausanne, je fais toutes les facultés. Après, moi, je fais pas trop.
Donc recherche littéraire, je sais pas, ouais.
Moi, je fais pas trop parce que c'est mon truc. Et
vous êtes combien?
J'ai d'autres journalistes, d'autres collègues journalistes qui, eux, aiment bien faire ça. Donc en fait, on se répartit en fait, par affiliation les trucs. Donc on est 5.
Ok. Et dans la manière de traiter les sujets, j'imagine que c'est assez différent de écrire un article. T'es libre hein, des articles que tu choisis. T'as une limite, je sais pas, tu dois en faire un par semaine, un truc comme ça, ou bien c'est comment ça marche?
En fait, on sort chaque mois en numéro.
Ouais.
Et puis on a plusieurs par mois. Après, ça dépend des articles, hein, mais j'en fais 3, 4. Enfin, ça dépend aussi si je fais des
podcasts. Ouais, vous répartissez ça entre vous.
Ouais,
quoi.
Ouais. C'est ça.
Et tu vois une différence? Disons, méthodologique entre une recherche en sciences sociales et une recherche en sciences dures, physiques, j'imagine. Comment est-ce que tu arrives à adresser ça, à jongler, en fait, entre ce qui est ton domaine principal, c'est-à-dire une science quand même... Bah, là, tu faisais une méthode empirique. En Ouganda, c'est vraiment très facilement testable, quoi. Je sais comment dire, test retest, ça marche, quoi. C'est rouge ou c'est vert, quoi. Alors que les sciences sociales, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus difficilement préhensible, quoi. Mm-hmm. Comment t'arrives à jongler entre les deux avec ta méthodologie de base, même si t'as fait de la psycho, hein. Donc t'as aussi ce côté-là. Mm-hmm. Bah, c'est peut-être pour ça, alors, je sais pas.
Ouais, bah, je pense que justement par curiosité, j'ai un peu appris à apprendre, toutes les méthodes.
Ce qu'on fait dans la vie, je crois.
Et puis au collège, j'étais en physique math aussi, ce qui aide un peu à avoir les bases.
Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, t'étais avec. Mais oui, toutes ces teams là. Comment il s'appelait? Il y avait Kevin Corazza. Kevin Lam.
Ouais, exactement.
Kevin Lam.
Bah, Christopher Chili.
Christopher Chili, il était aussi en physique math.
Ouais, on était ensemble. Donc ça aide, tu vois, que j'ai ce truc-là. Et puis bah, après, ce qui aide, c'est que je lis toujours les recherches académiques, tu vois, qui sont publiées. Donc tu as toute la méthode derrière.
Mm-hmm.
Puis après, moi, je rencontre tout le temps les scientifiques derrière, mm-hmm. donc on peut parler aussi. Et puis, ce que je fais, et ce que j'ai la chance de faire, c'est de pouvoir parler de la méthode. En fait, moi, je fais pas de journalisme, je fais pas des petits articles où j'ai juste l'opportunité de dire une recherche a montré ça. Bon. En fait, je vais dire une recherche a montré ça, et elle a été montrée grâce à nanana, ils ont pris ça, et mm-hmm. Je peux vraiment prendre le temps d'expliquer mm-hmm. les coulisses de la recherche, et ça, c'est un truc qui m'intéresse vraiment, c'est de communiquer sur comment est-ce qu'on arrive.
Pas seulement le résultat, mais la méthode, quoi.
Mm-hmm. Et donc voilà, donc je prends le temps de parler justement de ça, et puis donc d'apprendre aussi sur là-dessus.
J'imagine que ça découle d'une volonté aussi de public relations de la part de l'université, hein, genre un peu faire sa pub, entre guillemets, ce genre de non pas d'un point de vue commercial, tu vois, mais juste de dire, bah, voilà ce qu'on fait, en fait.
Mm-hmm.
Voilà ce qu'on fait, voilà les recherches qui sortent de chez nous. Et, normal, c'est une forme de publicité, quoi. Et en même temps, ben, le taf de journaliste, en tout cas, j'ai l'impression, hein, c'est aussi un taf critique.
Mm-hmm.
Comment t'arrives à jongler avec ces deux trucs-là? De dire, par exemple, je sais pas, t'écoutes cette chercheuse-là sur la méritocratie. Moi, il y a plein de choses que j'ai envie de lui poser comme question, mais qui vont un peu l'emmerder, tu vois. Genre, je sais pas, elle dit que c'est un système parmi tant d'autres. OK, c'est quoi les autres?
Mm-hmm.
Tu sais, toutes ces questions un petit peu agressive, mais ouais. Disons, qui cherche à un peu gratter ce qu'il y a derrière. Comment est-ce que tu fais à jongler entre les deux, entre, ben, je suis censé parler de votre recherche et en même temps, ben, la critiquer, puisque c'est ça la démonstration de ma faculté de journaliste.
Ouais, c'est une très bonne question.
Tu jongles entre les deux, d'arriver à faire les deux?
Alors, pour l'instant, j'ai toujours réussi, je pense, parce que j'ai pas eu de cas où je me disais, mais là, ils font n'importe quoi. Tu vois, enfin, j'ai l'impression que j'étais toujours face à des gens qui savaient ce qu'ils faisaient quand même, tout ça. Donc, il y a des moments où je me disais, mais là, j'ai des petites questions qui, disons, qui mmh. dérangent, mais mmh. ça fait partie du métier, justement, de dire, ah, mais ça, enfin, de poser ces questions-là. Et ce qui est intéressant, c'est la réponse, et puis de voir ça. Mais jamais, en fait, je suis arrivée à un point où ça décrédibilisait complètement la personne et peut-être l'institution derrière.
Ouais, ouais.
Donc, au final, en fait, j'ai jamais eu de moment où je me suis retrouvée devant un cas où je ne pouvais pas faire mon travail de journaliste.
Mm-hmm.
Et heureusement, parce que ça serait clairement dommage. Et enfin, ça laisserait tomber complètement le métier de journaliste qui requiert justement d'aller gratter un peu au-delà juste. Et puis moi, je travaille pour l'Université de Lausanne, mais je reste dans une équipe de journalistes. Donc effectivement, c'est mon métier. Je fais pas de la com, mais je suis là pour un peu.
J'imagine la zone est un peu grise quand même, parce que tu dois en même temps, c'est pas le but que de crédibiliser, mais de dire. Après, il y a deux écoles. Hein. Je parle souvent avec des potes journalistes. Moi, j'en parlais avant qu'ils arrêtent de me parler précisément pour ces raisons, mais. À mon avis, dans ma version, encore une fois, sous le contrôle des personnes qui savent la vraie définition, mais le journalisme, c'est le but que d'établir la vérité, en fait. Et ça, ça implique forcément un esprit critique. Mais on peut aussi, il y a aussi du journalisme engagé. Je sais pas, il y a des journaux qui ont une ligne éditoriale et qui disent, bah voilà, nous, on défend, je sais pas, tu vois, Le Courrier, c'est pas un journal qui va vraiment défendre Blücher demain, tu vois. Donc, ils assument cette ligne éditoriale et forcément, les journalistes qui sont engagés ont un biais et ils acceptent ça, c'est le truc, ok. Moi, j'ai l'impression que c'est autre chose, le journalisme. Avec un J majuscule, il y a plein de sortes, etc. Mais c'est ma variante. Donc, c'est pour ça que je me dis, bah, comment est-ce qu'on peut, à l'intérieur d'une institution, servir la vérité et en même temps être salarié de cette institution, tu vois. Après, heureusement, ce n'est pas un domaine très polémique. On est dans le domaine scientifique, ça, j'imagine qu'il n'y a pas encore que les sciences sociales, j'imagine que vous avez des fois deux, trois frictions, mais comment est-ce que tu arrives à faire ce partage? Tu me dis que tu ne l'as pas encore rencontré.
Mm-hmm.
Qu'à échéance, si tu devais le rencontrer une fois, si tu ne devais pas être d'accord avec une recherche que tu suis, comment est-ce que tu ferais?
C'est une bonne question. Et effectivement, c'est un truc qui peut me déranger. Enfin, et c'est aussi pour ça que je me vois pas forcément travailler tout le temps dans une université ou quoi, et de travailler plus dans un média plus traditionnel. Mais bon, vu que c'est un domaine qui est un peu moins polémique, j'ai pas eu affaire à ça. Mais ça, disons par exemple, hier, j'ai fait une interview avec un gars qui a fait un rapport sur l'engagement des chercheurs. Et puis, et on a discuté tout ça. Puis après, je lui ai dit, mais vous êtes chercheur et vous êtes aussi engagé. Vous avez aucun recul sur le, ouais, sur le truc.
Ouais, ouais, bah voilà, une question critique, voilà, typique.
Donc,
ouais.
Vraiment, je lui ai rentré dedans, quoi. Et donc, je pense que ça fait partie de mon métier, même si, voilà, c'est l'Université de Lausanne qui l'a engagé pour faire ce rapport. Hein. Mais je lui ai dit, mais est-ce que vous avez vraiment du recul là-dessus? Il était un peu déboussolé, mais voilà, il a répondu, et puis voilà. Mais je pense que c'est aussi mon travail de poser les questions que les lecteurs ou lectrices veulent se poser et devraient se poser. Et donc, ça ne m'a pas dérangée sur le moment, et je ne pense pas que l'université va me dire quoi que ce soit. Je te dirais si c'est le cas.
Mais j'imagine que c'est une université digne de ce nom et qu'ils ne le feront pas, tu vois.
Ouais. Mais après, ils sont assez ouverts justement à
l'autocritique, en fait.
À l'autocritique, mm-hmm. Et puis à stimuler le débat, en fait. C'est dans les missions de l'université de stimuler le débat. Et donc, pour l'instant, enfin, moi, j'ai jamais senti, jamais été censurée ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Et puis, le jour où vraiment j'ai un cas comme ça, où je sens que je peux pas dire ce que je veux, je pense que ça me dérangerait beaucoup. Mm-hmm. Et puis, je me vois pas vivre dans un, travailler dans un environnement comme ça. Donc, pour l'instant, ça.
C'est une condition de la continuation de ton travail que d'être libre, en fait, de poser les questions que tu veux. Mm-hmm. Mais pour l'instant, t'y as pas encore été trop bon. Bon, encore hier, ça a été déjà un cas, franchement, de dire à quelqu'un. Au fond, votre recherche n'est pas objective. Enfin, c'est pas. Il a répondu quoi? Est-ce que je l'écouterai sur le prochain podcast ou bien?
C'est un article écrit, mais tu pourras le lire, ouais, quand il sera publié. Mais bon, il a dit qu'il n'était pas tout seul, en gros, et qu'effectivement, lui, il n'est pas forcément très très objectif, mais que c'était un groupe de réflexion, mm-hmm. et qu'il y avait un peu différentes opinions là-dedans. Mm-hmm.
Ok, bon. Good enough. Ouais, ok. Je vais revenir sur le sujet de la méritocratie. Je sais que t'es pas la chercheuse qui a publié la recherche, mais je voulais savoir déjà ton avis sur cette recherche. Je sais pas si tu peux t'exprimer là-dessus ici. Si c'est le cas, ben je veux bien avoir ton opinion, parce que c'est quand même quelque chose qui m'a. C'est pas n'importe quel. Déjà, je voulais l'entendre parce que ben c'est toi qui l'as fait, et puis je savais qu'on parlerait après. Je me suis dit, allez, je vais quand même l'écouter, tu sais. Et après, je t'ai envoyé un message et franchement. Je trouve vraiment c'est un bon podcast, quoi. Tu fais l'effort de faire un vrai podcast, c'est-à-dire tu mets des effets, des musiques et des trucs comme ça. C'est vraiment pas le mien, où je mets juste musique au début, musique à la fin. Ça, c'est vraiment cool d'entendre un truc qui a l'expérience professionnelle derrière. Mais en dehors de ça, le fond m'a un peu dérangé. Parce que je suis là, mais ok, on critique la méritocratie. Et c'est très bien, parce qu'il faut qu'on critique tout le temps. Mais ma question, c'est, ok, on fait quoi d'autre alors? Parce que j'ai l'impression, et corrige-moi si j'ai pas bien compris l'argument. L'argument, c'est de dire, on a un système méritocratique, en fait, qui se renforce lui-même. C'est-à-dire que de croire en le système méritocratique le rend encore plus inégalitaire. C'est ça. J'ai l'impression que c'est ça ce qui est démontré, en fait.
C'est ça.
Donc, moi, j'ai envie de dire, bah, ok, je comprends que le but de la science, c'est de faire des constats, mais... Alors, est-ce que c'est peut-être pas le rôle que de la scientifique de faire une proposition, mais j'ai l'impression qu'elle en faisait quand même un peu à la fin, que dire, bah, il faut peut-être pas encourager les gens à croire en la méritocratie, mais alors comment faire, en fait? Quel autre système meilleur existe et comment encourager ou décourager cette fausse impression que la méritocratie mène à... Enfin, que la méritocratie existe?
En fait... Ce qu'elle montre, c'est exactement ce que tu as dit, hein. C'est pas que, en soi, la méritocratie n'est pas un problème, c'est de croire en la méritocratie. Enfin, de croire qu'on a tous et toutes les mêmes chances, ce qui n'est pas le cas parce qu'on part pas tous du même plan, quoi. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que si on est conscient des biais qui existent, c'est qu'on est conscient qu'on part pas tous du même plan, c'est la première étape, en gros. Et je pense qu'il y a quelque chose là-dedans, c'est de se rendre conscient. Par exemple, le fait qu'elle a dit dans le podcast que les enfants de milieux défavorisés ont moins tendance à lever la main quand à l'école. Parce qu'ils sont découragés de se lancer dans un système où on prend pas le temps de prendre le temps des adultes. Et donc, ils sont découragés à lever la main, alors que les enfants de milieux favorisés, eux, sont encouragés à le faire. Est-ce que ça, c'est une petite inégalité au début qui peut faire effet boule de neige, en gros, sur la suite, parce que après, ben, bien sûr, les enfants de milieux favorisés sont beaucoup plus stimulés intellectuellement. Mmh. Et d'être conscient, moi par exemple ça je savais pas du tout et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que d'être conscient de ce genre de choses, peut-être que bah les enseignants et enseignantes vont peut-être travailler là-dessus et se dire ah bah je vais essayer de plus stimuler la personne qui lève pas la main parce que c'est peut-être pas parce qu'il est pas intéressé mais peut-être parce qu'il est justement il est dans un milieu qui ne favorise pas ça et si on arrive à changer peut-être des petits trucs comme ça. Bah, par l'effet boule de neige, on pourrait essayer de changer ces différences. Après, c'est un peu idéal. Hein, comme,
non, mais je vois ce que tu veux dire.
Moi, ce petit truc de lever la main, bah, je ne le savais pas. Mm-hmm. Et donc, si je suis face, bon, je ne suis pas enseignante, mais en me disant, si à un moment je suis face à des enfants et puis je vois, et je me rappelle de ce truc qu'elle m'a dit, peut-être que j'interagirais différemment.
L'objectif, en fait, c'est la conscientisation.
Ouais.
C'est ça. Moi, j'ai senti un léger... Mais en même temps qui est nécessaire, donc je sais pas, moi j'ai vraiment l'impression qu'on a beaucoup en fait et qu'on a tendance à très vite critiquer, mais je pense que c'est vraiment une mauvaise tendance que j'ai, qu'il faut que je la combatte, de ce qu'elle veut en fait cette chercheuse, j'ai l'impression en tout cas dans son côté, ou en tout cas ce qu'elle veut ouvertement, je suis pas dans sa tête, c'est de dire voilà, il y a un problème, faut juste qu'on en ait conscience. Mm-hmm. C'est pas de dire notre système est pourri, c'est pas de dire on va jamais rien faire, c'est de dire voilà, il y a ce problème là, si on est conscient de ça, ça pourrait améliorer les choses, c'est juste.
Ben, après, elle ne dit pas que ça, mais
non,
je pense que, mais... oui, clairement, elle dit ça, et je pense que ça a un effet énorme d'être conscient de quelque chose.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est clairement, j'ai l'impression, le but de la recherche scientifique, c'est d'être conscient des choses. En tout cas, la recherche en sciences sociales, c'est genre presque un effet de catharsis de ce que tu disais. Toi, maintenant, si demain, tu devais enseigner à une classe d'enfants, tu... Bon, mais après, comment est-ce qu'on pourrait faire? Parce que comment tu sais, tu vois, comment est-ce que tu sais qui est marginalisé? Ceux qui parlent moins.
Il y a quand même tu peux être conscient des classes sociales. Ouais. C'est quand même des trucs qui se voient. Justement, elle parlait du fait de certains trucs où on a des clichés un peu, et puis en fait on en est conscient. Mm-hmm. Mais après, bien sûr, il y a plein de, c'est pas un truc que tu vois directement, mais il y a quand même des trucs qui peuvent t'aider. Mais même sans savoir se dire ah bah lui c'est une personne des personnes de milieu défavorisé, alors ouais, mais juste se dire je vais essayer de donner la parole à tout le monde de manière équivalente, même s'il lève pas la main, tu vois. Peut-être que c'est un
truc. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ce que j'aime bien, c'est que le fait que ce qu'elle encourage, c'est un changement pour tout le monde au niveau individuel. C'est ce que toi tu dis, c'est genre, c'est les enseignants ou les personnes qui ont affaire à des poules de classes sociales différentes, qui au niveau individuel doivent se rendre compte, conscientiser et agir différemment. Là, j'avoue que je suis preneur, tu vois, qu'on soit de plus en plus conscient de ce dont on est inconscient, et c'est le but de la vie, vraiment, on est d'accord. Par contre, il y a certains autres aspects de ce genre de mouvement que j'avoue que je peine à partager pour en avoir été l'objet, mais justement ne pas avoir pu en être l'objet. C'est tout ce qui est plus, pas individuel, mais organisationnel, structurel ou institutionnel. Par exemple, ce qui a déjà été abordé avec Cindy dans un précédent podcast, une infirmière de la HR à Neuchâtel, le cas des bourses d'études. Des bourses d'équité, on va dire. Donc, il y a deux manières de voir, hein. L'égalité, c'est-à-dire égalité des opportunités, donc tout le monde a la même chose, que conteste cette chercheuse, hein, et probablement à juste titre, parce qu'on est d'accord qu'on n'est pas, même si c'est l'objectif, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Mmh. Et puis l'équité, c'est-à-dire de compenser, je t'apprends rien, hein, c'est juste la distinction, comme ça on est d'accord sur les termes, compenser les inégalités de la naissance, ou de la situation sociale, ou du contexte, par une forme d'aide, entre guillemets, hein, sans jugement de valeur, artificiel, qui viendrait justement rebalancer l'équilibre. À l'université de Neuchâtel, il y a une bourse qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est la bourse, je crois que ça s'appelle la bourse égalité, qui est interdite aux hommes. C'est-à-dire que tu ne peux pas postuler à cette bourse, c'est réservé au personnel, aux chercheurs ou aux potentiels post-doctorants féminins. Et l'objectif, bah, tu l'as bien compris, c'est il y a 25% de profs femmes, 75% de profs hommes. On veut rééquilibrer ça, comment on fait? On met plus de incentive pour les femmes et ça rééquilibrera à terme. C'est une... Qu'est-ce que tu penses de ce genre de démarche? Maintenant que j'ai exposé mon avis, hein, je pense que comme ça, je fais pas semblant de pas savoir et en fait, après, voilà. Étant toi-même, évoluant toi-même dans un milieu universitaire, c'est pour ça que je te pose la question.
Moi, honnêtement, je pense que c'est une bonne idée si c'est bien fait. Mais c'est mon opinion, hein. Mais je trouve que que ça permet justement de donner de tenter de rééquilibrer les choses. Après, la difficulté de ce genre de choses, c'est de savoir qui est vraiment défavorisé, parce que effectivement, par exemple, il y a une grande différence de genre, et en sciences, les femmes obtiennent moins les postes en haut de la hiérarchie. Mais après, voilà, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Mais en même temps, c'est difficile de séparer les choses et de voir qui peut vraiment en bénéficier. Mmh. Donc, je pense que la difficulté et peut-être le problème de ce genre de démarche, c'est est-ce que, en fait, ça va donner une bourse à quelqu'un, à une femme, mais qui, en fait, est millionnaire, je sais pas. Et que là, du coup, c'est un problème du système. Mais en même temps, est-ce que tu mets une échelle, donc t'as pas le droit, si t'as un salaire plus haut que ça, mais bon, après, si t'es à 10 francs de ce salaire, il y a plein de problèmes. Et
Claire.
Moi, je pense que je suis contente de pas faire ce travail-là.
C'est
hyper complexe. Je pense que c'est une bonne idée et je pense que c'est une manière de justement essayer de rééquilibrer les choses, mais c'est vraiment complexe.
Mais tu penses que la démarche même d'essayer de rééquilibrer les choses, mettons par exemple le nombre de femmes en sciences, comme tu l'as dit, cette démarche en soi, elle est fondée?
Je pense que oui.
Ouais.
Parce que tant que c'est basé sur des recherches qui montrent qu'il y a une véritable différence, et là c'est le cas, par exemple, je pense que oui, c'est une bonne idée, c'est une manière d'essayer de donner de la chance à des personnes qui n'en ont pas forcément.
Ok. Alors, mettons, il y a deux manières de distinguer le gap homme-femme. Il y a par domaine, et puis il y a au sein de la hiérarchie. Donc, il y a genre 25% de professeurs, 75% de professeurs. Puis après, il y a 10% de femmes en physique, 90% de mecs en physique, tu vois. Là où je pourrais te rejoindre, c'est dans le côté hiérarchique. Bon, il n'y a pas de raison que parce que tu es une femme, tu n'aies pas autant de possibilités de... Après, il y a la question des enfants, c'est un bordel. Comme tu dis, j'aimerais vraiment pas être celui qui prend ces décisions parce que je ne sais pas du tout comment ils font leur schmilblick. Mais il y a d'autres raisons qui justifient ça que le pur domination dont on parlait avant, à mon avis. Mais ça, j'entends. Après, au sein des domaines, pareil, tu maintiens propension ou volonté d'équilibrer aussi au sein des domaines. Par exemple, est-ce que tu trouves que, je sais pas, dans les sciences, par exemple en psychologie, je pense que vous étiez, je dirais, 90% de femmes, 10% d'hommes, un truc comme ça. Peut-être 80-20, j'en sais rien, mais en règle générale, dans le monde, c'est comme ça. Et puis en physique, c'est l'inverse. Est-ce que tu trouves que ça aussi, c'est quelque chose qui est finalement injustifié, qui devrait être rééquilibré?
Alors, non, là, en fait... Moi, ce dont je parlais avant, c'était plus pour rééquilibrer peut-être cet effet donc hiérarchique ou en fait des effets aussi très économiques. Mais effectivement, pour les facultés et tout ça, je pense que là, c'est pas une question d'argent. Par exemple, justement, pour s'inscrire à la faculté de psychologie en soi, en Suisse, c'est très peu cher. Donc, c'est pas une question d'argent ou de capacité non plus parce que t'as pas de test à l'entrée. Donc, c'est plus l'intérêt qui est différent, j'imagine, ou bien les débouchés, où il y a plein de stéréotypes aussi qui sont liés et tout ça. Mais donc, c'est plus des trucs psychologiques. Donc, moi, pour moi, une bourse, ça ne ferait pas sens de donner un truc économique pour inciter les gens. Peut-être qu'on pourrait plus faire des... au niveau, par exemple, du collège, de donner des formations ou des trucs qui expliquent bien
des journées d'introduction,
qui sensibilisent... à ce que c'est vraiment la psychologie, est-ce que c'est vraiment un truc de fille, ou bien à l'inverse, est-ce que la physique c'est vraiment un truc de gars, et puis d'essayer de sensibiliser et je sais qu'il y a par exemple des cours, des trucs genre les filles en sciences ou un truc comme ça, des journées où tu peux, je sais pas si c'est à l'école primaire ou après, mais où tu peux faire des sciences pendant un moment pour sensibiliser. Ça c'est cool.
Donc t'encouragerais ce genre de méthode pour dire, parce qu'il y a la question. Est-ce que tu penses que c'est... je ne vais pas faire le cliché de la palissade de Inyewaki, mais à ton avis, ces différences 90 en psycho ou en physique, elles sont surpassables? Ou est-ce, disons que ce serait un bien commun meilleur que d'avoir 50-50 dans les deux? Ou est-ce que tu penses que les facteurs psychologiques sont finalement des données avec lesquelles il faut travailler et pour lesquelles il n'y a pas besoin d'aller trifouiller avec des incentives ou des trucs comme ça d'un côté ou de l'autre?
Est-ce que tu me poses la question de est-ce que c'est pas bien d'avoir un déséquilibre?
Ouais, en gros, est-ce qu'il faut que la société en tant que telle, l'université ou la société générale, fasse quelque chose pour combler ce déséquilibre? Celui sur les professeurs, je pense qu'on est d'accord, franchement. Et si c'est ça le but de la bourse, moi, ça m'a énervé parce que j'aurais bien eu une bourse, tu vois. À titre personnel, je roule pas sur l'or et j'aurais bien continué mes études avec ça, mais peu importe, indépendamment de ça, je trouve bizarre de dire un truc égalité puis c'est interdit à la moitié des... Mais bref, là, on est d'accord. Sur la hiérarchie, il y a une inégalité structurelle, soit. Sur vraiment les domaines, est-ce que tu trouves qu'on a en tant que communauté, on a quelque chose à faire pour rééquilibrer ça, ou est-ce que c'est un déséquilibre qui finalement, sans utiliser le mot naturel, est ok à maintenir?
Je pense que pour moi, je pense qu'il n'y a pas qu'il y a de problème effectivement, qu'il y ait un déséquilibre. Là où il pourrait y avoir un problème, c'est si ce déséquilibre est dû à des stéréotypes de genre. Par exemple. Où on se dit, je sais pas, la psycho, c'est vraiment un truc de fille, mais pas parce que, en fait, tu t'inscris pas parce que tu, par exemple, t'es un homme et tu veux pas t'inscrire parce que c'est un truc de fille, mais alors que t'es intéressé. Là, c'est un problème.
D'où l'intérêt de faire des journées, comme tu dis, de dire, c'est ok d'être pompière.
C'est ça.
Ouais, ok.
Exactement.
Okay.
Mais si ce choix est pris de manière complètement due aux choix, qui sont bien sûr influencés à plein de trucs, mais voilà. Dans ce cas, pour moi, il n'y a pas de problème qu'il y ait un déséquilibre.
Ah, ok. Bon, je crois qu'on est complètement d'accord. Je trouve très cool le fait que tu sois nuancé, en fait. Parce que j'essaie de tirer des petits pics d'idéologie et tu cèdes pas. Et c'est vraiment... Non, c'est très impressionnant. C'est très bien. Parce que j'en connais d'autres qui seraient partis dehors. Bon, non, c'est vraiment cool. C'est genre, tu es très raisonnable, structuré et tu sais faire la distinction entre quelque chose qui est juste une position intenable idéologique et un. Franchement, c'est une très chouette conversation, je trouve.
Non, ouais, ça, pour moi aussi, c'est très chouette.
Ok. Et tu sens, est-ce que tu sens, alors j'ai une autre question. Mon frère est journaliste aussi à la Tribune, et il m'a dit qu'il y avait au sein des générations un gap entre deux formes de journalisme. Il n'a pas dit. Je vais mettre un peu des mots dans sa bouche, mais je pense à peu près ce qu'il voulait dire, c'est qu'en gros, il y a une nouvelle génération qui sont plus des activistes et une ancienne génération qui sont plus des vieux journalistes à l'ancienne. Un peu, on tape un peu sur les politiciens, mais on tape un peu sur les écolos, on tape un peu sur tout le monde. Enfin, on fait un job contre tout le monde. Ouais. Et les autres ont plus vraiment cette fameuse dichotomie entre parti pris, ligne éditoriale et objectivisme maximal. C'est même si c'est une asymptote, on est d'accord. Est-ce que tu sens ça au sein de l'université? Est-ce que tu sens une forme d'idéologie qui prend le pas sur certains domaines ou sur certaines professions?
Alors, je pense que le cas de l'université, j'ai pas assez de recul pour dire, parce que déjà, j'y étais pas il y a 50 ans. Et puis, si je compare juste les journalistes, on est 5, donc ça fait un tout petit échantillon. De manière générale, je pense qu'effectivement, il y a cet effet-là. Je pense que les jeunes ont envie de faire bouger les choses, et puis c'est vrai que le journalisme, c'est une manière de faire bouger les choses aussi, donc il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer là-dedans. Je veux dire, moi aussi, j'ai pris ce choix-là parce que, en fait, aussi, une des raisons pour laquelle je suis passée de la science au journalisme scientifique, c'était que j'ai pas envie que la science reste dans une petite bulle comme ça, et que j'ai envie de partager, vulgariser, que tout le monde puisse avoir accès à ce monde-là, qui est un monde encore très fermé. Donc oui, il y a une forme d'activisme que moi-même j'ai, et il y a beaucoup de gens qui le font. Je ne pense pas que ça soit quelque chose de négatif. Je sais qu'il y en a qui le voient négativement.
C'est un équilibre.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais oui, je suis d'accord avec ce constat. J'ai l'impression, avec le peu de carrière que j'ai...
Ouais, que tu vois une différence entre les deux.
Ok.
Bon, intéressant ça. Que de savoir que ça existe et de savoir qu'il y a des forces pour contrebalancer ça, finalement. C'est vrai que ça fait probablement avancer. C'est intéressant. On peut faire le parallèle avec le jeune chimpanzé dont tu parlais avant, qui veut bousculer justement la hiérarchie et qui s'arrête au bout d'un moment quand il n'arrive plus sans coopération. Quoi. Bon, on verra. T'aimes bien cette... Université comme milieu, comme endroit dans lequel évoluer, c'est un endroit qui te plaît, c'est facile, je sais pas, c'est de que tu connais.
Ouais. Ben moi, c'est ce que je connais parce que j'ai fait je sors d'un bachelor et d'un master, ouais, et ouais, puis de, même de, d'un contrat après.
Oui, mais c'est différent, là, t'es, voilà, non, t'es, dans t'es un employé, autre, quoi. Ouais.
Donc, en fait, ce qui aide, c'est que je connais bien le milieu, je sais comment la science fonctionne et tout ça, donc moi, je suis à l'aise parce que c'est, ouais, mm-hmm, c'est la manière dont je fonctionne. Après, tu as tous les avantages d'université, tu es sur un campus, je veux dire, c'est toute une petite ville, quoi, l'université, mmh, mmh, donc les conditions de vie sont quand même très bonnes. Après, effectivement, bah, comme on parlait avant, il y a peut-être des limites aussi. Je peux pas traiter de sujets s'ils ne sont pas liés à l'Université de Lausanne. Après, je travaille à 80% pour l'Université de Lausanne et j'écris des articles en dehors aussi. Donc là, je peux
toujours
aussi,
comme pigiste.
Ouais, voilà. Mmh. Donc je peux aussi me faire
plaisir. Tu pourrais annualiser ça. Imagine. Ouais. Non, mais c'est vrai, j'étais dans 3 mois loin et 9 mois. Non, c'est pas une option.
Ah ouais. Ça serait
incroyable, ça.
Ça serait incroyable, mais il faut qu'on ait des publications un peu au fur et à mesure de l'année.
Donc 80-20, tu dis ?
Ouais.
Et donc 80% du temps, quand tu travailles concrètement, t'es au campus et t'as un bureau ou...
Ouais, j'ai un bureau sur le campus, j'ai le mercredi de libre, enfin de congé, et puis je fais en télétravail en général, enfin j'ai un jour et demi de télétravail. Mmh.
J'imagine que tu es abonné à tous les grands magazines scientifiques.
Ouais, pas tous, parce que ça fait un budget, mais même l'université est abonnée à presque tout, donc je peux regarder.
T'as quoi, 40% de ton temps que tu passes à lire, je pense, savoir l'état de la recherche, etc.
C'est clair. Clairement, mm-hmm. Bah, ça, c'est aussi ce que j'adore, c'est justement toujours au taquet sur les...
T'es tout le temps, en fait, sur le edge de savoir exactement ce qui se passe, ce qui est sorti, le nouveau truc. Ça, c'est cool quand même.
Il y a tellement de choses qui sortent que voilà, je ne peux malheureusement pas tout savoir non plus, mais j'ai un métier qui me permet d'être curieuse et ça, c'est chouette.
Ouais, c'est vraiment... franchement, en tout cas, il est bien vendu. Hein.
C'est cool.
Bon, bah, c'était vraiment une conversation très chouette. Je pense qu'on peut arrêter là. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ta mesure et la richesse de cette conversation. Franchement, c'est vraiment très bien.
C'est trop bien pour moi aussi. Merci.
Ouais, c'est vrai. Et puis, j'espère qu'on en fera un de ces jours quand il y aura le James Webb qui reviendra.
Ouais,
non, mais je crois pas qu'il revient, en fait. Hein. Je crois qu'il est parti pour un moment,
ça. Ouais.
Je crois qu'ils l'ont lancé et puis ciao. Je crois pas que...
Mais
j'ai vu comment ils ont fait, genre avec, tu as des planètes et tu... C'est un truc que je savais pas du tout, tu vas me dire, c'est basique, mais en fait ils lancent et puis ils tiennent compte du poids de la planète vers laquelle ils l'envoient pour dévier la trajectoire.
Ouais, c'est fou.
Et ça marche, ouais. C'est un truc improbable, ouais. Des modèles qui fonctionnent, c'est, je sais pas combien de centaines d'années-lumière, enfin.
Ouais.
Ça, franchement, c'est impressionnant. C'est très de l'extérieur comme ça, quand t'as des juristes qui disent on fait des travaux scientifiques et tout, et qu'en fait ils cherchent ce que d'autres juristes ont dit.
Ouais.
Il y a un coin de ma tête, je me rappelle un peu les cours de bio, je me dis ah, il y a quand même la vraie science, des types qui font des trucs incroyables. Ouais, il y a la science juridique, elle a besoin d'exister, tu vois, c'est clair. Mais il n'y a pas quand même cette richesse et cet inconnu quand même. Tu nages comme ça, tu sais pas, tu traverses une forêt ou un océan et. C'est pas ce que tu vas trouver.
Ouais,
il y a un truc grisant que j'ai l'impression de voir dans ton regard, qui est trop cool, franchement, que je te souhaite de maintenir. Tu ne seras jamais blasé de cette curiosité-là.
Ouais.
C'est un truc qui te fait peur, des fois. D'être blasé de...
J'ai jamais été...
D'un jour plus être curieuse.
Ouais, je pense pas que ça soit un risque. Enfin, je suis tellement... Ouais. Si vraiment ça arrive, c'est que je vais faire un mental breakdown. Je sais pas. Enfin, normalement, j'espère pas effectivement le perdre, parce que sinon...
C'est
que je ne suis plus moi-même.
Bon, cool. Merci.
Merci à toi.